Chapitre 5. Marianne et Maud habitaient depuis un mois le château de Bardel, et elles ne devaient reprendre leur ancien mode d'existence qu'après leur entier rétablissement, car on n'a pas oublié que les deux jeunes femmes étaient devenues mères. Robin Hood ne put supporter longtemps l'absence de sa bien-aimée compagne. Un matin, il emmena avec lui une partie de sa bande et l'installa dans la forêt de Bardel. William, qui naturellement avait suivi son jeune chef, déclara bientôt que la demeure souterraine, construite en grande hâte dans le voisinage du château, valait infiniment mieux que celle du grand bois de Sherwood, ou du moins que, s'il y manquait différentes choses pour compléter le bien-être de la troupe, il y avait dans la proximité du hall de Bardel une très agréable compensation. Robin et William étaient donc enchantés de leur changement de domicile, et deux jeunes gens de notre connaissance partageaient pour la même cause leur expansive satisfaction. Ces deux jeunes gens se nommaient Petit Jean et Much Cockle, le fils du meunier. Robin s'aperçut bientôt que Petit Jean et Much s'absentaient sans motif apparent à toute heure du jour. Cette désertion se renouvela tant de fois que Robin eut le désir d'en connaître la cause. Il prit des informations et on lui révéla que sa cousine Winifred, aimant fort à se promener, avait demandé à Petit Jean de lui faire visiter les sites les plus remarquables de la forêt de Bardel. « Bon, dit Robin, voilà pour Petit Jean. Et Much ?» On répondit que Miss Barbara, partageant la curiosité de sa sœur à l'endroit des beautés de la campagne, avait voulu l'accompagner dans ses excursions champêtres, mais que Petit Jean, avec une prudence digne d'éloge, avait fait observer à la jeune demoiselle que, la responsabilité d'une femme étant déjà une chose grave, il lui était impossible d'accepter sa compagnie et les charges qui en devaient résulter. En conséquence, Much avait offert sa protection à Miss Barbara et Miss Barbara l'avait acceptée. Les deux couples s'en allaient donc errer à travers les arbres et dans les endroits les plus mystérieux et les plus ombragés. Tout en causant on ne sait de quoi, ils oubliaient de regarder les objets qu'ils étaient venus voir et les vieux chênes tordus, les hêtres aux gracieuses branches, les ormes séculaires passaient devant leurs yeux sans obtenir la moindre attention. Puis, une fatalité plus étrange encore que cette indifférence pour les splendeurs du bois jetait sans cesse chacun des couples dans un chemin contraire à la bonne route et ils ne se rencontraient qu'à la porte du château au lever des premières étoiles. Ces promenades, qui se renouvelaient journellement, expliquèrent à Robin la double absence de ses deux compagnons. Un soir, la journée avait été brûlante et un vent tiède rafraîchissait l'atmosphère. Marianne et Maud, appuyées aux bras de Robin et de William, sortirent du château pour entreprendre une longue promenade dans les clairières parfumées du bois. Winifred et Barbara suivaient les jeunes couples et Petit Jean et son inséparable Much servaient d'ombre aux deux sœurs. « Ici, je respire !» dit Marianne en présentant à la brise son visage pâli. « Il me semble que l'air me manque dans mon appartement et j'ai hâte de reprendre le chemin de la forêt. » « Il est donc bien agréable de vivre dans les bois ?» demanda Miss Barbara. « Oui, reprit Marianne, il y a tant de soleil, de lumière, d'ombre, de fleurs et de feuillages. » « Much m'a dit hier, continua Barbara, que la forêt de Sherwood surpassait en beauté celle de Bardel. Il faut alors qu'elle réunisse toutes les merveilles de la création, car nous avons ici des endroits ravissants. » « Vous trouvez donc le bois de Bardel très joli, Barbara ?» demanda Robin en dissimulant un sourire. « Charmant !» répondit la jeune fille avec vivacité. « Il s'y trouve des paysages délicieux. »« Quelle est la partie du bois qui a particulièrement attiré vos regards, ma cousine ?»« Je ne saurais répondre très clairement à votre question, Robin. » Cependant, je crois que mon souvenir accorde une petite préférence à une vallée qui, j'en suis certaine, n'a pas son égale dans le vieux bois de Sherwood. Et cette vallée se trouve ? Loin d'ici, mais vous ne pourriez imaginer rien de plus frais, de plus silencieux, de plus parfumé que ce petit coin de terre. Représentez-vous, mon cousin, une vaste pelouse entourée d'un terrain en pente, sur le sommet duquel croissent à profusion des arbres de toutes les espèces. La nuance différente de leurs feuilles éclairées par le soleil prend des aspects merveilleux. Tantôt, vous avez devant les yeux un rideau d'émeraude, tantôt, un voile aux couleurs multicolores se déroule sous vos regards. Le gazon qui couvre cette vallée ressemble à un grand tapis vert. Pas un pli n'en ride la surface. Au pied des arbres et sur la pente de ce semblant de colline, jetez des fleurs de pourpre, d'iris et d'or, faites courir au bas du ravin ombragé un mince filet d'eau qui roule en murmurant entre ses deux rives, et vous aurez sous les yeux l'oasis de la forêt de Barzel. Et puis, continua la jeune fille, le calme est si grand dans cette délicieuse retraite, l'air qu'on y respire est si pur qu'on se sent le cœur tout dilaté de joie. Enfin, je n'ai jamais vu de ma vie un endroit aussi ravissant. Où est donc cette vallée enchanteresse, Barbara ? Demanda naïvement Winifred. Vous ne vous promeniez donc pas toujours ensemble ? Interrompit Robin en souriant. Mais si, ajouta Winifred, seulement nous nous perdions toujours. Quelquefois, et plus juste. Je veux dire enfin que Petit Jean se trompait de chemin, et alors nous nous trouvions séparés. Nous nous cherchions, et je ne sais comment cela se faisait, mais nous ne parvenions jamais à nous rejoindre avant d'être arrivés au château. Cette continuelle séparation avait lieu, je vous l'assure, tout à fait par accident. Oui, en vérité, c'était par accident, reprit Robin d'un air moqueur, et personne ne suppose le contraire. Aussi, pourquoi rougissez-vous, Barbara ? Pourquoi baissez-vous les yeux, Winifred ? Voyez, ni Jean ni Munch ne sont embarrassés, eux. Ils savent si bien que vous vous égariez dans le bois sans vous en apercevoir. Mon Dieu, oui, répondit Munch, et connaissant le goût de Miss Barbara pour les endroits retirés et tranquilles, je l'avais conduite dans la petite vallée dont elle vient de faire la description. Je suis tenté de croire, reprit Robin, que Barbara possède une grande facilité d'observation pour avoir pu embrasser d'un coup d'œil toutes les choses charmantes dont elle vient de parler. Mais dites-moi, Barbara, n'avez-vous pas trouvé dans cette oasis de Barzel, ainsi que vous nommiez tout à l'heure la vallée découverte par Munch, quelque chose de plus charmant encore que les arbres aux feuilles diaprées, le gazon vert, le ruisseau chanteur et les fleurs multicolores ? Barbara rougit. « Je ne sais ce que vous voulez dire, mon cousin. »« Vraiment, Munch me comprendra mieux que vous, je l'espère. »« Voyons, Munch, répondez franchement. » Barbara n'a-t-elle point oublié de nous faire part d'un charmant épisode de votre visite dans ce paradis terrestre ? Quel épisode, Robin ? Demanda le jeune homme en débouchant un sourire. Mon discret ami, reprit Robin, est-il jamais parvenu à votre connaissance que deux jeunes gens épris l'un de l'autre soient allés seuls dans la délicieuse retraite dont Barbara garde si bien le souvenir au fond de son cœur ? Munch rougit prodigieusement. Eh bien, reprit Robin, deux jeunes gens de ma connaissance particulière ont visité il y a quelques jours votre paradis de verdure. Arrivés sur les bords fleuris du joli ruisseau, ils se sont assis l'un auprès de l'autre. D'abord, ils ont admiré le paysage, prêté l'oreille aux chants aériens des oiseaux, puis ils sont restés quelques minutes aveugles et muets. Puis le jeune homme, enhardi par la solitude, par le silence ému de sa tremblante compagne, a pris dans les siennes deux petites mains blanches. La jeune fille n'a pas levé les yeux, mais elle a rougi, et cette rougeur a parlé pour elle. Alors, d'une voix qui apparut à la jeune fille plus douce que le chant des oiseaux, plus harmonieuse que le murmure de la brise, le jeune homme lui a dit « Il n'y a personne dans le monde entier que j'aime autant que vous. » Je préférerai la mort à la perte de votre amour, et si vous voulez être ma femme, vous me rendrez le plus heureux des hommes. » « Dites-moi, Barbara, ajouta Robin en souriant, pourriez-vous me dire si la jeune fille a tendrement accueilli l'ardente prière de son galant cavalier ?»« Ne répondez pas à cette indiscrète demande, Barbie, s'écria Marianne. Parlez au nom de Barbara, Munch, dit Robin. « Vous nous adressez à l'un et à l'autre des questions si bizarres, » répondit le jeune homme, fort porté à croire que Robin avait assisté à son tête-à-tête avec Barbara, « qu'il m'est impossible d'en comprendre le but. » Par ma foi, Much, dit William, il me semble que Robin parle au nom de la vérité, et s'il faut en croire votre mine confuse et les couleurs éclatantes qui parent le front et les joues de ma sœur, vous êtes les amoureux de la vallée. Vive Dieu ! Barbara, si on m'appelle Will Écarlate à cause de mes cheveux roux, on pourra bientôt t'appeler aussi Barbie l'Écarlate, car ton visage est tout à fait pourpre. N'est-ce pas vrai, Maud ? Monsieur William, dit Barbara d'un air mécontent, si tu étais à portée de ma main, je t'arracherais avec plaisir une boucle de ta vilaine chevelure. Tu aurais le droit d'agir ainsi si cette même chevelure se trouvait sur une autre tête que la mienne, dit William en jetant un regard à Much. Mais la tête de ton frère est hors de cette atteinte. Elle a son tyran particulier, n'est-ce pas, Maud ?
Oui, Will, mais je ne vous ai jamais tiré les cheveux.
Cela viendra, ma chère petite femme.
Jamais, dit Maud en riant.
Ainsi, Much, vous ne voulez pas me faire connaître la réponse de la jeune fille ? Si vous rencontrez quelque jour cette jeune demoiselle, il faudra l'interroger vous-même, Robin.
Je n'y manquerai pas. Et vous, petit Jean, avez-vous connaissance d'un aimable garçon qui adore la solitude en tête-à-tête avec une charmante personne ?
Non, Robin, mais si vous désirez connaître ces amoureux, j'essaierai de les découvrir, répondit naïvement petit Jean.
Il me vient une idée, Jean, s'écria Will en éclatant de rire. Ces amoureux dont parle Robin ne vous sont pas inconnus, et je parie tout ce que vous voudrez que le jeune homme en question peut être appelé mon cousin, et que la jeune fille est une aimable personne du voisinage.
Votre idée est mauvaise, Will, répondit Jean. Il n'est pas question de moi.
En effet, je fais fausse route, reprit Will en souriant. Il ne peut être question de vous, mon cousin, car vous n'avez jamais été amoureux.
Je vous demande bien pardon, Will, reprit le géant d'un ton tranquille. J'aime de tout mon cœur et depuis longtemps une belle et charmante fille.
Ah ah ! S'écria Will, petit Jean amoureux, en voilà du nouveau.
Et pourquoi donc petit Jean ne pourrait-il être amoureux ? Demanda le grand jeune homme avec bonhomie. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela, j'imagine.
Rien du tout, mon brave ami. J'aime à voir tout le monde heureux, et le bonheur, c'est l'amour.
Mais par Saint-Paul, je serai fort content de pouvoir faire connaissance avec la dame de vos pensées.
La dame de mes pensées, s'exclama le jeune homme. Mais qui donc voulez-vous que ce soit, sinon votre sœur Winifred, cousin Will ? Votre sœur, que j'aime depuis l'enfance, autant que vous aimez Maud, autant que Much aime Barbara.
Un éclat de rire général répondit à la franchise de Jean, et Winifred, entourée de félicitations, lança au jeune homme un regard plein de tendres reproches.
« Vous le voyez, Much, reprit Robin, tôt ou tard, la vérité parvient à se faire connaître. J'avais touché juste en vous désignant pour les héros de la petite scène qui s'est passée dans le bois de Barzel. »
« Vous en avez donc été témoin ?» demanda Much.
« Non, je l'ai deviné, ou pour mieux dire, je me suis souvenu de mes propres impressions. » Il m'est arrivé la même chose il y a un an. Marianne m'avait attiré et...
Comment ? Je vous avais attiré ? Se récria la jeune femme.
C'était bien vous, Robin. Je vous prie de le croire. Et si j'avais pu prévoir à cette époque-là de quelle manière vous me traiteriez après notre mariage ?
Qu'auriez-vous fait, Marianne ? Interrompit Barbara.
Je me serais mariée plus tôt, chère Barbara, reprit la jeune femme en souriant à Robin.
Voilà, je l'espère, une réponse qui doit encourager la confiance dont vous avez déjà secrètement donné des preuves, espiègle Barbie.
Voyons, parlons à cœur ouvert, nous sommes en famille. Dites-nous que vous aimez Much, et de son côté, Much nous fera le même aveu.
Oui, je ferai cet aveu, s'écria Much d'une voix émue.
Oui, je dirai hautement, j'aime de toutes les forces de mon âme Barbara Gamwell.
Je dirai à tous ceux qui veulent l'entendre, les yeux de Barbara sont pour moi la lumière du jour, sa voix douce et vibrante résonne à mon oreille comme le chant harmonieux des petits oiseaux. Je préfère l'aimable compagnie de ma chère Barbara au plaisir des festins, à l'enivrement du bal sous les vertes feuilles du mois de mai. Je préfère un tendre regard de ses yeux, un sourire de ses lèvres ou une bonne pression de sa petite main à toutes les richesses du monde.
Je suis entièrement dévouée à Barbara, et plutôt que de faire une chose qui pourrait lui être désagréable, j'irai demander au shérif de Nottingham de vouloir bien m'envoyer à la potence. Oui, mes bons amis, j'aime cette chère enfant et j'appelle sur sa blonde tête toutes les saintes bénédictions du ciel. Si elle veut bien m'accorder le bonheur de la protéger de mon nom et de mon amour, elle sera heureuse et bien tendrement aimée. Hourra ! Cria Will en jetant son bonnet en l'air. Voilà qui est bien dit. Petite sœur, essuyez vos beaux yeux et venez, je vous en donne la permission, présenter vos joues roses, écarlates, à ce brave amoureux. Si, au lieu d'être un vaillant garçon, j'étais une faible fille et que mon oreille eût entendu de si douces choses, je serais déjà, la main ouverte et le cœur sur la main, dans les bras de mon fiancé. N'agirais-tu pas ainsi, Maud ? Certainement, n'est-ce pas ? Mais non, Will, la modestie ! Nous sommes en famille, il n'y a donc point à rougir d'une action aussi naturelle. Je suis bien assurée, Maud, que tu es de mon avis. Si j'étais moche et que tu fusses Barbie, tu serais déjà dans mes bras et tu m'embrasserais de tout ton cœur. Je me range du parti de William, dit Robin en souriant avec une certaine malice. Il faut que Barbara nous donne la preuve de son affection pour Much. La jeune fille ainsi interpellée s'avança au centre du joyeux groupe et dit d'un air timide « Je crois sincèrement à la tendresse que Much me témoigne. Je lui en suis très reconnaissante et je dois avouer à mon tour que tu l'aimes autant qu'il t'aime, ajouta vivement Will. Tu as la parole bien difficile aujourd'hui, petite sœur. Je t'assure qu'il m'a fallu beaucoup moins de temps à moi pour faire comprendre à Maud que je l'aimais de toutes mes forces. N'est-ce pas, Maud ?
C'est vrai, Will, répondit la jeune femme.
Much, continua William d'un air plus sérieux, je vous donne pour femme la gentille Barbara. Elle possède toutes les qualités du cœur et vous serez un heureux mari. Barbie, mon amour, Much est un honnête homme, un brave Saxon, fidèle comme l'acier. Il ne trompera pas tes tendres espérances, il t'aimera toujours.
Toujours, toujours, cria Much en prenant les deux mains de sa fiancée.
Embrassez votre future femme, ami Much, dit Will. Le jeune homme obéit et malgré le semblant de résistance opposé par Miss Gamwell, il effleura ses joues couvertes de rougeur. Le baronnet donna son consentement au mariage de ses filles et l'époque de la célébration de cette double union fut aussitôt fixée. Le lendemain matin, Robin Hood, Petit Jean et Will Écarlate se trouvaient entourés d'une centaine de leurs joyeux hommes sous les grands arbres de la forêt de Barzel lorsqu'un jeune garçon qui paraissait avoir fait une longue route se présenta devant Robin.
« Mon noble maître, dit-il, je vous apporte une bonne nouvelle. »
« Très bien, Georges, répondit le jeune homme, apprends-nous promptement ce dont il s'agit. »
« Il s'agit d'une visite de l'évêque d'Hereford. Sa seigneurie, accompagnée d'une vingtaine de serviteurs, doit traverser aujourd'hui même la forêt de Barzel. »
« Bravo, et voilà en vérité une bonne nouvelle. Sais-tu à quelle heure Monseigneur doit nous accorder l'honneur de sa présence ?»«
Vers 2 heures, capitaine. »
« C'est parfait. » Et comment as-tu été informé du passage de sa seigneurie ?
Par un de nos hommes qui, en passant à Sheffield, a appris que l'évêque d'Hereford se disposait à rendre une visite à l'abbaye de Sainte-Marie.
Tu es un brave garçon, Georges, et je te remercie d'avoir eu la bonne pensée de me mettre sur mes gardes.
Mes enfants, ajouta Robin, attention au commandement, nous allons rire.
Will Écarlate, prends avec toi une vingtaine d'hommes et va garder le chemin qui se trouve dans les environs du château de ton père. Toi, Petit Jean, va garder, avec le même nombre de compagnons, le sentier qui descend vers le nord de la forêt. Much, allez vous poster à l'est du bois avec le reste de la troupe. Je vais m'établir sur le grand chemin. Il ne faut pas laisser à Monseigneur la faculté de fuir, je désire l'inviter à prendre place à un royal festin. Il sera traité grandement, mais il paiera en conséquence. Quant à toi, Georges, tu vas choisir un daim de belle venue, un chevreuil bien gras, et tu prépareras les deux pièces à recevoir les honneurs de ma table.
Les trois lieutenants partis avec leur petite troupe, Robin ordonna à ses hommes de revêtir un costume de berger. Les forestiers possédaient dans leurs magasins toutes sortes de déguisements et lui-même endossa une modeste blouse. Cette transformation opérée, on planta des bâtons dans la terre et on y suspendit le daim et le chevreuil. Un bon feu alimenté par des branches sèches commença bientôt à mordre de son ardente chaleur les chairs savoureuses de la venaison. Vers 2 heures, ainsi que Georges l'avait annoncé, l'évêque d'Erfort et sa suite parurent au bas de la route, au milieu de laquelle se tenaient Robin et ses hommes, déguisés en bergers. « Notre butin approche, » dit Robin en riant. « Allons, mes joyeux amis, arrosez le rôti, voici notre convive. » L'évêque, accompagné de sa suite, marchait rapidement et bientôt la noble compagnie se trouva auprès des bergers. À la vue de la gigantesque broche qui tournait lentement autour du brasier, le prélat laissa échapper une violente exclamation de colère. « Qu'est-ce à dire, coquin ? Que signifie ?» Robin leva les yeux sur l'évêque, le regarda d'un air stupide et ne répondit pas. « M'entendez-vous, coquin ? Répéta l'évêque. « Je vous demande à qui vous destinez ce magnifique festin ?»« À qui ?» répéta Robin avec une expression de niaiserie admirablement rendue. « Oui, à qui ? Les serres de cette forêt appartiennent au roi et je vous trouve bien impudent d'avoir osé y porter la main. Répondez à ma question. Pour qui ce repas est-il apprêté ?»«
Pour nous, monseigneur, » répondit Robin en riant.
« Pour vous, imbécile, pour vous ? Quelle plaisanterie! Assurément, vous ne pouvez espérer de me faire accroire que cette profusion de viande va servir à votre repas. Monseigneur, je dis vrai, nous avons faim et dès que le rôti sera cuit à point, nous nous mettrons à table. À quelle propriété appartenez-vous? Qui êtes-vous?
Nous sommes de simples bergers, nous gardons les troupeaux. Aujourd'hui, nous avons voulu nous reposer de nos fatigues et nous amuser un peu. Dans ce désir, nous avons tué les 2 beaux chevreuils que voici.
Vraiment, vous avez voulu vous amuser. Cette réponse est naïve. Et dites-moi, qui vous a donné la permission d'abattre le gibier du roi ?
Personne.
Personne, misérable ! Et vous pensez pouvoir manger tranquillement ce produit d'un vol aussi audacieux ?
Assurément, monseigneur. Mais s'il peut vous être agréable d'en prendre votre part, nous serons flattés de l'honneur.
« Votre offre est une insulte, impertinent berger. Je la repousse avec indignation. Ignorez-vous que le braconnage est puni de la peine de mort ? Allons, assez de paroles inutiles. Préparez-vous à me suivre en prison et de là, on vous conduira au gibet. »«
Au gibet ? » s'écria Robin d'un air désespéré.
« Oui, mon garçon, au gibet. »«
Je n'ai pas envie d'être pendu !»
gémit Robin Hood avec un accent lamentable.
Je suis convaincu de cela, mais peu importe, tes compagnons et toi méritez la corde.
Allons, idiot, préparez-vous à me suivre, je n'ai pas de temps à perdre.
Pardon, monseigneur, 1000 fois pardon, nous avons péché par ignorance. Soyez indulgents pour de pauvres malheureux, plus dignes de pitié que de blâme.
De pauvres malheureux qui mangent d'aussi bons rôtis ne sont point à plaindre.
Ah, mes gaillards, vous vous nourrissez de la venaison du roi ? C'est bien, c'est fort bien. Nous irons de compagnie en présence de Sa Majesté et nous verrons si elle vous accordera le pardon que je vous refuse.
Monseigneur, reprit Robin d'une voix suppliante, nous avons des femmes, des enfants, soyez miséricordieux. Je vous implore au nom de la faiblesse des unes, de l'innocence des autres. Que deviendront sans notre appui ces pauvres créatures ?
Vos femmes et vos enfants ne m'intéressent point, repartit cruellement l'évêque.
Saisissez ces misérables, ajouta-t-il en se tournant vers les hommes de sa suite, et s'ils tentent de fuir, tuez-les sans miséricorde.
Monseigneur, dit Robin Hood, permettez-moi de vous donner un bon conseil. Rétractez ces injustes paroles, elles respirent la violence et manquent de charité chrétienne. Croyez-moi, il serait plus sage à vous d'accepter l'offre que je vous ai faite, le partage de notre dîner.
Je vous défends de m'adresser un seul mot, cria furieusement l'évêque. Soldats, emparez-vous de ces bandits.
N'approchez pas, cria Robin d'une voix de tonnerre.
ou par Notre-Dame, vous vous en repentirez !»«
Chargez hardiment ces vils esclaves, répéta l'évêque, et ne les épargnez pas !»
Les serviteurs du prélat se précipitèrent sur le groupe des joyeux hommes et la mêlée allait devenir sanglante lorsque Robin sonna du cor et instantanément apparurent les différentes parties de la troupe qui, avertie de la présence de l'évêque, s'était doucement rapprochée. La première action des nouveaux venus fut de désarmer la suite de l'évêque.
« Monseigneur, dit Robin au prélat, muet de terreur, en reconnaissant en quelle main il était tombé,
vous vous êtes montré impitoyable, nous serons également sans pitié. Qu'allons-nous faire de celui qui voulait nous conduire à la potence ?» demanda le jeune chef à ses compagnons.
« L'habit qu'il porte adoucit la sévérité de mon jugement, répondit Jean d'un air tranquille. Il ne faut point le faire souffrir.
Votre conduite est celle d'un honnête homme, brave forestier.
Vous croyez, monseigneur ? Reprit Jean, toujours impassible.
Eh bien, je vais achever de vous transmettre mes pacifiques intentions. Au lieu de vous torturer le corps et l'âme et de vous faire mourir à petit feu, nous allons tout simplement vous trancher la tête.
Me trancher la tête ? Tout simplement ? Murmura l'évêque d'une voix mourante.
Oui, reprit Robin, préparez-vous à la mort, monseigneur.
Robin Hood, ayez pitié de moi, je vous en conjure, supplia l'évêque en joignant les mains. Accordez-moi quelques heures, je ne veux pas mourir sans confession.
Votre arrogance première a fait place à une bien grande humilité, monseigneur, répondit froidement Robin.
Mais cette humilité ne me touche pas, vous vous êtes condamné vous-même. Préparez donc votre âme à paraître devant Dieu.
Petit Jean, ajouta Robin en faisant à son ami un signe d'intelligence, veille à ce que rien ne manque à la solennité de la cérémonie.
Monseigneur, veuillez me suivre, je vais vous conduire au tribunal de la justice.
À demi paralysé par l'épouvante, l'évêque se traîna en chancelant à la suite de Robin Hood. Lorsqu'ils furent arrivés à l'arbre du rendez-vous, Robin fit asseoir son prisonnier sur un tertre de gazon et ordonna à un de ses hommes d'apporter de l'eau.
« Vous plairait-il, monseigneur ? » demanda poliment le jeune chef, « de vous rafraîchir les mains et la figure ?»
Quoique très surpris de recevoir une pareille proposition, l'évêque répondit avec condescendance. Les ablutions terminées, Robin ajouta « Me ferez-vous la grâce de partager mon repas ? Je vais dîner, car je ne saurais rendre un jugement à jeun. »
« Je dînerai si vous l'exigez, » répondit l'évêque d'un ton résigné.
« Je n'exige pas, monseigneur, je prie. »«
Alors, je me rends à votre prière, sœur Robin. »«
Eh bien, à table, monseigneur. »
En achevant ces mots, Robin conduisit son hôte à la salle du festin, c'est-à-dire vers une pelouse toute en fleurs, où le couvert se trouvait déjà confortablement mis. La table, surchargée de mets, présentait au regard un spectacle fort réjouissant, et son aspect parut ramener le prélat vers des idées moins lugubres. À jeun depuis la veille, l'évêque se sentait en appétit et l'excitante odeur de la venaison lui monta au cerveau.
« Voilà, dit-il en s'asseyant, des viandes admirablement cuites. »
« Et d'un goût exquis, ajouta Robin en servant à son convive un morceau de choix. » Vers le milieu du repas, l'évêque oublia ses craintes. Au dessert, il ne vit plus en Robin qu'un aimable compagnon.
« Mon excellent ami, dit-il, votre vin est délicieux, il me réchauffe le cœur. Tout à l'heure, j'avais froid, j'étais malade, chagrin, inquiet. Maintenant, je me sens tout gaillard. »
« Je suis très heureux de vous entendre parler ainsi, monseigneur, car vous faites l'éloge de mon hospitalité. Généralement, mes convives sont très enchantés de la bonne grâce qui les accueille ici. » Cependant, il vient un quart d'heure, désagréable pour eux, celui qui amène le règlement de la dépense. Ils aiment fort à recevoir, mais il leur paraît très désagréable de donner.
C'est vrai, c'est bien vrai, répondit le prélat, sans savoir le moins du monde ce qu'il voulait dire par cette approbation.
Oui, en vérité, le fait existe.
Versez-moi à boire, s'il vous plaît. Il me semble que j'ai du feu dans les veines.
Ah ah! Savez-vous, mon hôte, que vous menez ici une heureuse existence ?
Aussi nous appelle-t-on les joyeux hommes de la forêt.
C'est juste, c'est juste. Maintenant, monsieur,
Je ne connais pas votre nom. Permettez-moi de vous dire adieu. Il faut que je continue ma route. »
Rien de plus juste, monseigneur. Payez, je vous prie, la note de votre dépense et préparez-vous à boire le coup de l'étrier. »
Payez ma dépense, grommela l'évêque. Suis-je donc ici dans une auberge? Je me croyais dans la forêt de Sherwood.
Monseigneur, vous êtes dans une auberge, c'est moi qui suis le maître de la maison et les hommes qui nous entourent sont mes serviteurs.
Comment tous ces hommes sont vos serviteurs? Mais il y en a pour le moins 150 à 200.
Oui, monseigneur, sans compter les absents.
Vous devez donc comprendre qu'avec un semblable entourage de valets, je dois faire payer mes hôtes le plus qu'il m'est possible.
L'évêque poussa un soupir.
Donnez-moi ma note, dit-il, et traitez-moi en ami.
En grand seigneur, mon hôte, en grand seigneur, répondit gaiement Robin.
Petit Jean, appela le jeune homme.
Celui-ci accourut.
Faites le compte de monseigneur l'évêque d'Hereford.
Le prélat regarda Jean et se mit à rire.
Eh bien, dit-il, petit, petit, on vous appelle petit, et vous pourriez être le fils d'un arbre. Allons, donnez-moi votre note, gentil caissier.
Inutile, monseigneur, il suffit de me faire connaître où vous mettez votre argent, je me paierai moi-même.
Insolent, dit l'évêque, je te défends de fourrer tes longs doigts dans ma bourse.
Je voulais vous épargner la peine de compter, monseigneur.
La peine de compter? Pensez-vous que je sois ivre? Allez chercher ma valise et apportez-la-moi, je vous donnerai une pièce d'or.
Petit Jean se garda bien d'obéir au dernier ordre du prélat. Il ouvrit le porte-manteau et trouva un petit sac de cuir.
Jean vida le sac. Il contenait 300 pièces d'or.
Mon cher Robin, s'écria Jean tout joyeux, le noble évêque mérite des égards. Il nous a enrichis de 300 pièces d'or.
Le seigneur d'Hereford, l'œil demi-clos, écoutait sans rien y comprendre les triomphantes exclamations de Jean, et lorsque Robin lui dit « Monseigneur, nous vous remercions de votre générosité », il ferma les yeux et marmotta de confuses paroles, au milieu desquelles Robin parvint à saisir ces quelques mots.
« L'abbaye Sainte-Marie, à l'instant !»«
Il veut partir, » dit Jean.
« Faites venir son cheval, » ajouta Robin.
Sur un signe de Jean, un des joyeux hommes amena le cheval harnaché et la tête couronnée de fleurs.
On hissa l'évêque à moitié endormi sur la selle du cheval. On l'y attacha afin de prévenir une chute qui aurait pu devenir funeste et, suivi de sa petite troupe, joyeusement animée par le vin et par la bonne chère, l'évêque prit le chemin de Sainte-Marie.
Une partie des joyeux hommes, fraternellement confondus avec l'escorte du prélat, conduisit toute la troupe jusqu'aux portes de l'abbaye. Il va sans dire que, après avoir mis en mouvement une cloche d'appel, les forestiers s'éloignèrent de toute la vitesse de leurs chevaux.